Bretagne 5. Écoutez la Bretagne.
L'économiste Jean Fourastier a publié en 1978 La réalité économique, réédité en 1986, les thèses avancées par Jean Fourastier ont inspiré des générations de responsables des politiques publiques en France. Extrait. Pour être homme, il faut d'abord être vivant. L'allongement de la vie physique permet à l'homme moyen d'aujourd'hui de vivre une vie biologiquement complète, c'est-à-dire comprenant une enfance, une adolescence, un âge mûr et une vieillesse, alors que cette vie complète n'était à l'époque traditionnelle donnée qu'à une faible minorité. Par contre, la vie maximale de l'homme n'a pas été augmentée et les spécialistes savent que nos connaissances actuelles sur la question ne nous laissent pas espérer sur ce point un succès prochain. Nous pouvons admettre que l'homme d'aujourd'hui vivra en moyenne 80 ans, peut-être même 95, mais pas plus. D'ailleurs, si l'on parvenait à élever cet âge moyen maximal, les problèmes que nous évoquons ici ne seraient que plus aigus. Le phénomène de l'allongement de la vie moyenne est bien connu. Il s'agit ici d'en voir les conséquences. Une humanité composée de membres qui, en majorité, atteignent l'âge de 75 ans est différente d'une humanité dans laquelle un homme sur deux meurt avant 21 ans ou même avant 16 ans. Or, c'est dans la situation traditionnelle de l'humanité qu'ont été élaborées nos normes morales, nos principes philosophiques, nos règles juridiques, disons. À la fin du XVIIe siècle en France, et probablement aussi à un siècle près dans le monde entier, la vie d'un père de famille moyen marié pour la première fois à 27 ans peut être schématisée. Né dans une famille de 5 enfants, il n'en a vu que la moitié parvenir à l'âge de 15 ans. Il a eu lui-même 5 enfants, dont 2 ou 3 seulement sont vivants à l'heure de sa mort. Cet homme, vivant en moyenne jusqu'à 52 ans, aura vu mourir dans sa famille directe une moyenne de 9 personnes, dont un seul de ses grands-parents, les 3 autres étant morts avant sa naissance, ses 2 parents et 3 de ses enfants. Il a vécu 2 ou 3 famines et en outre 3 ou 4 épisodes de grains chers liés aux mauvaises récoltes qui revenaient en moyenne tous les 10 ans. Il a, en plus des morts, vécu les maladies de ses frères, de ses enfants, de sa femme, de ses parents et les siennes propres. Il a connu 2 ou 3 épidémies de maladies infectieuses, sans parler des épidémies quasi permanentes de coqueluche, scarlatine, diphtérie, qui faisaient chaque année des victimes, et il a toujours souffert de maux physiques tels que dentaires et de blessures longues à guérir. Les spectacles de la misère, de la malformation et de la souffrance ont été constamment sous ses yeux. Aujourd'hui, c'est l'homme moyen qui atteint 75 ou 80 ans. La situation de cet homme moyen à 50 ans est dès lors facile à décrire. Né dans une famille de 3 enfants, il a épousé à 26 ans une jeune fille de 23 ans. Ils ont eux-mêmes 1 ou 2 enfants. Les maladies ont été bénignes. Presque aucune n'étant même inquiétante. Les seuls deuils ont été ceux de ses 4 grands-parents, délivrance attendue plutôt que dramatique, coupure. La douleur physique a presque disparu et cet homme, âgé de 50 ans, a encore une chance sur 2 de vivre encore plus de 25 ans. Une femme âgée de 50 ans a, elle, une chance sur 2 de vivre plus de 30 ans. Nous raisonnons ainsi pour l'Europe occidentale. Dans bien des pays du monde, la situation démographique est à peine meilleure que celle de la France de 1730. Il suffit de connaître, même mal, la condition humaine pour comprendre combien les ordres de grandeur, nouveaux dans les pays développés, de la durée de la vie, doivent engendrer dans la pensée de l'homme moyen un climat différent des anciens. À l'époque traditionnelle, la mort était au centre de la vie comme le cimetière au centre du village. Depuis lors, la mort, la misère et la souffrance physique reculent. Elles ne sont plus considérées comme les rudes compagnes de l'homme faites pour le contraindre à la vie spirituelle et au progrès moral. Mais comme des accidents, des amputations, des hasards malchanceux, contraires à la véritable nature de l'homme et qu'ils font donc non seulement combattre, mais de plus, minimiser et dissimuler. Conséquence. si l'on entre dans le détail. Les disparités entre l'humanité traditionnelle et l'humanité de demain n'en sont pas moins frappantes et souvent poignantes. Hier, dans un cas sur deux, la mort des enfants en bas âge les faisait disparaître avant leur père. Et la moitié des autres enfants voyaient leur père mourir avant d'avoir atteint leur majorité. Demain, le fils moyen aura 45 à 58 ans lorsque son père mourra. Il l'aura vu auparavant atteint par les déchéances de la sénescence. La situation des peaux subit une mutation plus sérieuse encore. Hier, des hommes de 25 à 30 ans, déjà fortement marqués par une rude expérience, presque toujours orphelins d'au moins un parent, guidés par des motivations beaucoup plus dépendantes des besoins durables des familles que de l'attrait superficiel des corps et des esprits, contractaient des unions qui n'étaient rompues que par la mort, mais qui duraient en moyenne moins de 20 ans. Aujourd'hui, des garçons à peine plus jeunes, mais beaucoup moins marqués par la vie, se fiant aux seuls entraînements de leur âge, s'engagent toujours en principe pour la vie, mais cette fois pour près de 50 ans. Traditionnellement, les parents mouraient avant d'avoir terminé l'éducation de leurs plus jeunes enfants. Demain, un couple normal survivra 15 à 20 années au mariage de son plus jeune enfant. La vieillesse, ou plus exactement la sénescence, se présente donc bien différemment. Autrefois, la vieillesse était le couronnement d'une carrière exceptionnelle, ayant triomphé de mille dangers, ayant trompé la mort. Entouré d'une pléiade d'enfants, de petits-enfants ou de neveux, le vieillard était reconnu et se considérait lui-même comme un sage, détenteur d'un pouvoir magique au bénéfice de son village, de sa famille. En un mot, c'était un ancien. Aujourd'hui, la vieillesse n'est plus, dans certains cas, que l'usuelle et pitoyable décadence d'un corps usé qui retourne à la mort à travers une vie parfois végétative. Les conséquences individuelles, juridiques, philosophiques et morales de l'allongement de la vie moyenne sont considérables, mais les conséquences sociales ne sont pas moins importantes. Une certaine conception du monde place dans le passé l'âge d'or de l'humanité. Tout aurait été donné gratuitement à l'homme dans le passé et tout serait au contraire pénible et vicié de nos jours. Jean-Jacques Rousseau a donné une couleur politique et révolutionnaire à cette croyance restée vive au cœur de l'homme moyen. Ainsi, l'on entend parler de la vertu des produits naturels et bien des Français croient que la vie d'autrefois était bien plus saine qu'aujourd'hui. Le bref regard que nous venons de jeter sur le calendrier démographique de l'homme moyen confirme ce que l'histoire nous apprend. La nature est une dure marâtre pour l'humanité. Le lait naturel des vaches naturelles donne la tuberculose et la vie saine d'autrefois faisait mourir un enfant sur trois avant son premier anniversaire. Ce n'est qu'au prix d'un labeur acharné que l'humanité a assuré sa survie. Mais à l'inverse, ceci ne prouve en rien, au contraire, que la société de consommation doit continuer à considérer la nature comme inépuisable et à ignorer l'écologie. Aussi, bien des facteurs quantitatifs sont venus transformer le genre de vie démocratique des hommes. Mais ce sont peut-être encore les facteurs qualitatifs qui sont les plus importants. Ils modifient l'être même.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.